Bonjour. Alors, au mois de septembre, nous avons effectivement parlé de Mère Teresa de Calcutta, surtout de son enfance avec son frère, sa sœur, ses parents. J'ai parlé aussi de cet événement si important pour elle, c'est la mort de son père, le décès de son père, qui s'est passé quand la future Mère Teresa, Agnès Boyaxou, avait 7-8 ans, hein, elle était encore très jeune. Et puis ensuite, voilà, il y a la vocation qui est venue et à 18 ans, elle est partie en Inde avec une compagne après être entrée chez les sœurs de Notre-Dame de Lorette. Et pendant toutes ces années de 1928 à 1946, Mère Teresa va enseigner la géographie et vivre sa vie de religieuse. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'un événement. Un événement très important, essentiel pour la vie de Mère Teresa, l'appel qu'elle a entendu de Jésus. C'était le 10 septembre 1946. Ce jour-là, Mère Teresa monte dans un train à Calcutta et elle doit monter dans le nord de l'Inde, à Darjeeling, pour faire une retraite dans une des maisons des sœurs de Notre-Dame de Lorette. Donc elle est partie, j'ai envie de dire, totalement innocemment, hein? Elle ne s'attendait pas du tout, je pense, à ce qui allait se passer dans ce train. Alors elle va monter dans le train. Alors imaginez un peu l'ambiance des trains en Inde avec cette foule qui prend place dans le train. Et puis il y a même des gens qui s'accrochent parfois aux portes, voire parfois même qui montent sur le toit pour partir. Et Mère Teresa est dans le compartiment, elle est assise ce 10 septembre 1946 dans son coin, et à l'intérieur de son cœur, dans son esprit, à l'intérieur d'elle-même, elle entend une voix. Une voix. Cette voix, c'est la voix de Jésus. Elle l'identifie, c'est Jésus qui lui parle. Jésus qui lui dit des choses pour sa vie future. Jésus qui lui dit surtout: j'ai soif, j'ai soif. Et cette parole, j'ai soif, hein, c'est la parole de Jésus sur la croix, c'est aussi la parole de Jésus à la Samaritaine. Eh bien, cette parole, Jésus la répète ce jour-là dans le cœur à Mère Teresa: j'ai soif de toi, j'ai soif que tu puisses maintenant t'occuper de moi à travers les pauvres, à travers les plus pauvres. Il faut que tu quittes ta communauté religieuse, il faut que tu partes t'occuper des pauvres, il faut que tu t'habilles en indienne, il faut que tu reçoives que tu reçoives dans ton cœur ma présence en permanence pour que je puisse te guider, te conduire. J'ai soif de toi, Mère Teresa. Mère Teresa va écouter cette voix de Jésus. Elle va mémoriser ces paroles de Jésus et elle va arriver à Darjeeling et elle va entrer dans sa retraite. Mais vous comprenez bien que cette parole intérieure a complètement déjà transformé sa vie et tout reste à faire. Tout reste à faire. Et à Darjeeling, Mère Teresa va se confier à un jésuite, le père Van Exemple. Et puis elle va lui raconter ce qui s'est passé dans le train. Elle va lui raconter cet appel qu'elle a entendu de Jésus, cet appel qu'elle a reçu. Et comme il se doit dans un événement comme celui-là, c'est-à-dire dans une manifestation du ciel, hein, qui parle sur la terre à une personne, le père Van Exem, ce jésuite, va être bien sûr prudent. Il va être prudent, donc il va écouter Mère Teresa et puis elle va pouvoir lui parler de nouveau et puis il va lui dire surtout: attendons, attendons, vérifions, voyons si cette voix est bien celle du Seigneur Jésus. Mais pour Mère Teresa, la route était tracée. Elle devait s'habiller en indienne, porter le sari, et puis dans son esprit, elle va penser qu'il va y avoir des bandes bleues, hein, pour la Vierge Marie, bien sûr. Et puis, elle va vivre à la manière des indiennes. Et puis surtout, elle va partir vivre ailleurs que dans sa communauté religieuse. Alors, réfléchissons encore un petit peu et disons aussi que la communauté religieuse des Sœurs Notre-Dame de Lorette, dans laquelle elle avait vécu 18 ans, était en quelque sorte un lieu très protecteur. Protecteur. Mère Teresa vivait, priait, enseignait, rencontrait ses élèves, mais elle avait relativement quand même peu de contact avec l'extérieur et encore moins de contact avec les pauvres et avec les bidonvilles. Et même, je pense que ça lui a fait un petit peu peur, ça l'a un petit peu impressionné quand Jésus lui a dit « il faut que tu quittes ta communauté religieuse, que tu pars dans les bidonvilles et puis que tu t'occupes des pauvres et que tu consacres ta vie à ça ». Et puis, je crois que c'est encore à Darjeeling qu'elle a entendu quelques paroles en quelque sorte complémentaire de Jésus, qui lui a donné par exemple le nom des religieuses que devait fonder, que devait créer Mère Teresa, les missionnaires de la charité. Les missionnaires de la charité, donc c'est le nom qu'elle prendra ensuite, et puis quand elle accueillera beaucoup d'indiennes qui viendront dans sa communauté s'occuper des pauvres avec elle, elle emploiera toujours ce nom de missionnaire de la charité. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes encore à Darjeeling avec le père Van Exempt. Et ce père Van Exempt va inviter, je disais, Mère Teresa à la prudence. Est-ce bien Jésus qui t'a parlé? Est-ce bien Jésus qui te dit de quitter ta communauté religieuse? Et si oui, eh bien, il faut dans quelque temps en parler à l'évêque. En parler avec l'évêque, c'est l'évêque qui pourra t'autoriser à quitter ta communauté, c'est l'évêque qui te permettra de pouvoir aller vivre avec les pauvres à Calcutta, ces pauvres d'entre les pauvres, comme les appellera toujours par la suite Mère Teresa de Calcutta. Alors Mère Teresa va vivre sa retraite. Elle va quitter aussi le père Van Exemple, elle va retourner à Calcutta. Elle retrouvera par la suite le père Van Exemple à Calcutta. Elle va rentrer après ce temps de retraite dans sa communauté religieuse. Et surtout, elle va continuer intensément de prier pour, comme lui avait dit le père Van Exemple, vérifier cet appel. Mais elle, Mère Teresa, en est sûre. Elle en est certaine. C'est Jésus qui lui dit, c'est Jésus qui lui a parlé, c'est Jésus qui l'invite à quitter sa communauté religieuse. Donc, elle se dit, je vais bientôt écrire à l'évêque et puis je lui demanderai la permission, l'autorisation de quitter ma communauté et de partir m'occuper de ces pauvres. Alors, ces pauvres, je l'ai dit déjà un tout petit peu, ils étaient quand même très proches de l'école d'Antalya où se trouvait Mère Teresa. J'ai raconté que j'ai eu la chance en 1994 d'aller voir Mère Teresa à Calcutta et de découvrir ces lieux fondateurs, hein, ces lieux fondateurs de cette nouvelle communauté des missionnaires de la charité. Je suis passé devant cette école où elle avait passé 18 années. J'ai vu ce bidonville très proche de l'école, qui existait malheureusement encore en 1994. Et puis donc, Mère Teresa, en rentrant dans son école, va continuer de prier, de méditer, de réfléchir et d'écrire une lettre à l'évêque. Alors, on va écouter maintenant un petit peu de musique et puis ensuite, on va lire cette lettre que Mère Teresa a écrite à son évêque.
Thank you.
Donc, quelques mois après cet événement que je viens de raconter, cette parole de Jésus dans le cœur de Mère Teresa, cette mission de Jésus, tracée par Jésus lui-même, c'est la voix de Jésus que Mère Teresa a entendue dans son cœur, dans le train, qui lui dit ce qu'il faut faire. Elle va se décider, donc, avec l'accord du Père Van Exem, son accompagnateur jésuite, hein, d'écrire à l'évêque, l'archevêque de Calcutta, qui s'appelle à cette époque Monseigneur Perrier. Monseigneur Perrier, c'est un jésuite qui est devenu évêque de Calcutta, un missionnaire comme le père Van Exem. Et Mère Teresa prend sa plume et va écrire en anglais, bien sûr, mais on a la traduction en français de la lettre qu'elle a écrite à Monseigneur Perrier, le 17 janvier 1947. Et c'est Francine maintenant qui va lire cette lettre de Mère Teresa de Calcutta.
Depuis septembre dernier, des pensées et des désirs étranges habitent mon cœur. Ils se sont renforcés et éclairés au cours des nuits, des 8 jours de retraite que j'ai fait à Darjeeling. En venant ici, j'ai tout raconté à frère Van Exem. Je lui ai montré les quelques notes que j'avais prises pendant la retraite. Il me dit que, selon lui, elles étaient inspirées par Dieu, mais que je devais prier et garder le silence. Je ne cessais de lui dire toutes les pensées et les désirs qui traversaient mon âme. Puis hier, il écrivit ceci. Je ne peux vous empêcher de parler ou d'écrire à mon Seigneur. Vous lui écrirez comme une fille écrit à son père, en parfaite confiance et sincérité, sans aucune crainte ou anxiété, en lui disant comment tout s'est passé et en ajoutant que vous m'en avez parlé et qu'à présent, je pense que je ne peux, en conscience, vous empêcher de tout lui exposer. Avant de commencer, je tiens à vous dire qu'il suffit d'un mot de votre part, Monseigneur, et je suis prête à ne jamais plus m'attarder sur ces pensées étranges qui me revenaient continuellement. Très souvent, au cours de cette année, je languissais d'être tout à Jésus et d'amener d'autres âmes, indiennes en particulier, à l'aimer avec ferveur, à m'identifier totalement avec les jeunes filles indiennes et à l'aimer comme il n'a encore jamais été aimé. Je pensais que c'était un de mes nombreux désirs fous. Je suis en train de lire la vie de Sainte Cabrini. Si elle fit tant pour les Américains, c'est parce qu'elle se fit l'un d'eux. Pourquoi ne puis-je faire en Inde ce qu'elle fit pour l'Amérique? Elle n'attendit pas que les âmes viennent à elle, elle alla à elle, avec ses ouvriers pleins de zèle. Pourquoi ne puis-je faire la même chose pour lui ici? Il y a tant d'âmes pures, saintes, avides de se donner qu'à Dieu. Les ordres en Europe sont trop riches pour elles. Ils reçoivent plus qu'ils ne donnent.
Ne veux-tu pas m'aider?
Je lui répondis, comment le puis-je? J'ai été et je suis très heureuse comme sœur de Lorette. Quitter ce que j'aime et m'exposer à de nouvelles tâches et souffrances qui seront grandes. Être la risée de tant de personnes, surtout religieuses, m'accrocher et choisir délibérément les duretés d'une vie indienne, la solitude et l'ignominie, l'incertitude et tout le reste, parce que Jésus le veut, parce que quelque chose m'appelle à tout quitter et à rassembler les disciples pour vivre sa vie, faire son œuvre en Inde. Ces pensées furent la cause de beaucoup de souffrances, mais la voix continuait de me dire
« Vas-tu refuser ?»
Un jour, à la Sainte Communion, j'entendis la même voix très distinctement.
« Je veux des religieuses indiennes, dit Jésus, victimes de mon amour, qui seraient Marthe et Marie, qui seraient si unies à moi qu'elles rayonneraient mon amour sur les âmes. Je veux des religieuses libres, revêtues de ma pauvreté de la croix. Je veux des religieuses obéissantes, revêtues de mon obéissance à la croix. Je veux des religieuses pleines d'amour, revêtues de la charité de la croix. Vas-tu refuser ? Vas-tu refuser de faire cela pour moi ?
Un autre jour, Jésus me dit :
Tu es devenue mon épouse pour mon amour. Tu es venue en Inde pour moi. La soif que tu avais pour les âmes t'a amené jusque-là. As-tu peur de faire un pas de plus pour ton époux ? Pour moi, pour les âmes. Ta générosité s'est-elle refroidie? Suis-je passé à la deuxième place pour toi? Tu n'es pas morte pour les âmes. C'est pourquoi tu ne te soucies pas de ce qui se passe en elles. Ton cœur n'a jamais été submergé par le chagrin, comme le fut celui de ma mère Marie. Elle et moi avons tout donné pour les âmes. Et toi, Mère Teresa, tu as peur de perdre ta vocation, de devenir ou redevenir séculière, de manquer de persévérance? Non, ta vocation est d'aimer, de souffrir et de sauver les âmes. Et en franchissant ce pas, tu accompliras le désir de mon cœur pour toi. Voilà ta vocation. Tu porteras de simples vêtements indiens, ou plutôt comme ceux que ma mère portait, simple et pauvre, Marie, ma mère. Ton habit actuel est saint car il est mon symbole. Ton sari deviendra saint parce qu'il sera mon symbole.
Je tentais de persuader notre Seigneur que j'essayerais de devenir une sœur de Lorette très fervente et sainte, une vraie victime, ici, dans cette vocation, mais la réponse se fit très claire.
Je veux des sœurs de la charité missionnaire indienne, qui serait mon feu d'amour parmi les très pauvres, les malades, les mourants, les petits-enfants des rues, les pauvres que je veux que tu m'apportes et les sœurs qui offriraient leur vie comme victimes de mon amour amèneraient ces âmes à moi. Tu es, je le sais, la personne la plus incapable, faible, et pécheresse. Mais c'est justement parce que tu l'es que je veux me servir de toi pour ma gloire. Vas-tu refuser ?
Ces paroles, ou plutôt cette voix, m'effraya. La pensée de manger, dormir, vivre comme les Indiens me remplit de peur. Je priais longtemps, je priais tellement. Je demandais à Marie, notre mère, de demander à Jésus d'écarter tout cela de moi. Et plus je priais, et plus la voix était claire dans mon cœur. Je priais donc qu'il fasse de moi tout ce qu'il voulait. Et il ne cessait de me reposer la même question. Alors, une fois de plus, la voix fut très claire.
Tu as toujours dit, fais de moi ce qu'il te plaira. Maintenant, je vais agir. Laisse-moi faire. Ma petite épouse, ma petite à moi, n'aie pas peur. Je serai toujours avec toi. Tu souffriras. Et tu souffres maintenant. Mais tu es ma petite épouse à moi, l'épouse de Jésus crucifié. Tu auras à supporter ces tourments dans ton cœur. Laisse-moi agir. Ne refuse pas. Fais-moi confiance amoureusement. Fais-moi confiance aveuglément. Ma petite, donne-moi des âmes. Donne-moi des âmes des pauvres petits-enfants des rues. Comme ça fait mal, si seulement tu savais, de voir ces pauvres enfants souillés par le péché. J'aspire à la pureté de leur amour. Si tu voulais seulement répondre à mon appel et amener ces âmes à moi, arrache-les des mains du mauvais. Si seulement tu savais combien de petites tombent dans le péché chaque jour. Il y a des couvents où beaucoup de religieuses s'occupent des riches et des gens capables, mais pour mes très pauvres, il n'y a absolument personne. Pour eux, je languis, je les aime. Mère Teresa, vas-tu refuser? Demande à mon Seigneur de me donner cela en action de grâce pour les 25 années de grâce que je lui ai accordées.
Voilà ce qui se produisit entre lui et moi durant ces jours de prières ardentes. À présent, toute l'affaire se présente clairement à mes yeux. En voici donc le déroulement. Je suis impatiente de n'être vraiment qu'à lui, de m'embraser complètement pour lui et les âmes. Je veux qu'il soit tendrement aimé par beaucoup. Donc, si vous le pensez, si vous le désirez, je suis prête à faire sa volonté. Ne tenez pas compte de mes sentiments. Ne tenez pas compte du coût que j'aurai à payer. Je suis prête, car je lui ai déjà donné tout mon être. Et si vous pensiez que tout cela est une erreur, cela aussi je l'accepterai et me sacrifierai complètement. Je confie cette missive à frère Van Exem. Je lui ai donné entière permission d'utiliser tout ce que je lui ai dit, ayant trait à ma relation avec lui dans ce travail. Mon changement à Asensol me semble être une partie de son plan. Là-bas, je vais avoir plus de temps pour prier et me préparer à sa venue. Dans ce domaine, je m'abandonne complètement entre vos mains. Priez pour moi que je devienne une religieuse selon son cœur. Votre enfant dévoué en Jésus-Christ, Mère Teresa.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon. Guidé par le juste chemin pour l'amour de son nom. Passerai-je au ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Devant moi tu as prêt une à mes adversaires. D'une onction tu me parfumes la tête et ma coupe déborde.
Cette lettre, adressée à Monseigneur Perrier, l'archevêque de Calcutta, va bien sûr lui parvenir. Il va, et c'est normal, et c'est juste, beaucoup s'interroger. Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui a parlé à Mère Teresa? Il la connaissait, Mère Teresa, mais l'archevêque n'imaginait absolument pas qu'elle pourrait partir s'occuper des pauvres dans les rues et créer une nouvelle fondation, une nouvelle communauté, les missionnaires de la charité. Et il va se passer encore du temps pour que l'évêque accepte cette mission qui est donnée à Mère Teresa par Jésus lui-même. Mais il va surtout dire à Mère Teresa, il faut qu'on écrive à Rome, il faut qu'on demande l'autorisation à Rome, parce que c'est eux seuls qui pourront confirmer cet appel que vous avez reçu et vous laisser partir, Mère Teresa, au milieu des pauvres. Donc, Monseigneur Perrier, l'archevêque de Calcutta, va à son tour, plusieurs mois après la lettre que nous avons lue, écrire à Rome et demander l'autorisation pour Mère Teresa qu'elle soit exclaustrée, c'est-à-dire qu'elle puisse, tout en étant toujours parmi ses religieuses, faisant toujours partie de la communauté des sœurs Notre-Dame de Lorette, parte, puisqu'elle puisse partir, vivre sa vocation dans les bidonvilles. Et la réponse de Rome en 1948 va arriver et donner l'autorisation à Mère Teresa de partir. Et à partir de ce jour-là, Mère Teresa, seule, va franchir la porte de cette école où elle avait été si heureuse, dans sa communauté religieuse et comme professeur de géographie et avec ses élèves. Elle va franchir la porte et partir vers son destin. Et sa destinée, c'était d'aller s'occuper des pauvres et de le faire jusqu'à la fin de sa vie. J'imagine qu'il y avait quand même une impression forte dans le cœur et dans l'esprit et une sorte de peur un peu au ventre quand même. Mais elle avait cette certitude que c'est Jésus qui lui demandait, que c'est Jésus qui lui avait parlé et qu'elle devait remplir cette mission. Alors Mère Teresa va aller vivre au bidonville, elle va faire aussi un stage à partir de cette année 1948 pour le soin des malades. Elle va vivre ce stage dans une autre communauté ailleurs qu'à Calcutta. Et puis elle va revenir à Calcutta et on a des images de Mère Teresa qui, dans la rue, rassemble des enfants et puis leur fait l'école, leur parle parce que ces enfants des rues dans le bidonville n'allaient pas à l'école. Et puis elle va avoir surtout cette expression qu'elle a utilisée toute sa vie. « J'ai vécu la vocation dans ma vocation. J'ai vécu auprès des pauvres, les plus pauvres d'entre les pauvres, parce que le Seigneur me le demandait et que le Seigneur avait choisi la plus petite, la moins capable, celle qui était capable d'être professeur, bien sûr, dans cette école, mais pas au-delà, et qui devait vivre à la manière des Indiennes. Et elle va avoir conscience de sa petitesse, de son incapacité à remplir sa mission, mais Jésus va lui faire comprendre et bien lui faire comprendre que c'est à cause de cela qu'il l'a choisie. C'est parce qu'elle est la moins capable. Souvent, j'ai entendu Mère Teresa employer cette expression « Je suis un crayon dans la main de Dieu. Je suis un crayon dans la main de Dieu. » Et elle va écrire avec ce crayon, elle va écrire ce crayon de la parole de Dieu, ce crayon de la prière, ce crayon de l'Esprit Saint. Elle va écrire sa nouvelle vie. Et puis, un détail très intéressant et très important, ses anciennes élèves vont la rejoindre très rapidement. Très rapidement. Au bout de quelques mois, d'anciennes élèves qui ont terminé leur temps d'école vont rejoindre Mère Teresa et lui dire « On veut vivre avec toi, on veut vivre comme toi ». Et elles sont indiennes, ces anciennes élèves. Donc elles vont changer leur sari avec le sari de la communauté religieuse, des missionnaires de la charité, ce sari blanc bordé de bleu, le sari de Mère Teresa. Et elles vont former ce premier noyau, mais qui va très vite devenir très important. J'ai rencontré, quand je suis allé en 1994 à Calcutta, M. Gomez. Et M. Gomez, c'est cet homme qui a accueilli Mère Teresa parce que dans sa maison, il avait un étage vide et il a accueilli Mère Teresa et les premières sœurs pour former la communauté religieuse. Et elles ont donc commencé de former cette communauté religieuse. Elles partaient le matin, elles priaient, puis elles allaient se mettre au service des pauvres dans les bidonvilles, visiter les malades, s'occuper des mourants. Mais les mourants, on en parlera la prochaine fois, parce qu'il y a eu cette création magnifique du mouroir à Calcutta qui s'est fait quelque temps après. Et c'est surtout les personnes âgées, les malades, les enfants dont elles vont s'occuper au départ, et puis chercher aussi parfois de la nourriture, parce qu'il fallait nourrir ces pauvres de la rue. Et puis, M. Gomez m'a encore raconté cette histoire, alors je vous la donne. Hein. En 1994, il m'a dit « Un jour, j'ai accompagné Mère Teresa dans une pharmacie. Hein, » Une pharmacie à Calcutta, c'est comme un arrière de garage. On ouvre la porte et puis il y a des tas de médicaments. Et puis, Mère Teresa a demandé au pharmacien des médicaments pour s'occuper des pauvres. Et elle était avec M. Gomez, qui est resté à l'extérieur. Et puis, le pharmacien a dit « Vous pouvez me payer ?»« Non. » Alors, je ne peux pas vous donner les médicaments. » Alors, Mère Teresa est sortie de la pharmacie, elle allait s'asseoir, elle a pris son chapelet et elle s'est mise à prier. Elle a prié, Monsieur Gomez m'a dit, moi j'attendais à côté d'elle, elle a prié 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et au bout de 20 minutes, eh ben, Monsieur Gomez est sorti. Il avait un grand sac, m'a expliqué Monsieur Gomez, plein de médicaments. Il a demandé à Mère Teresa de partir avec ses médicaments. Elle les avait reçus gratuitement pour elle, grâce à Dieu, grâce à sa prière. Hein. Alors voilà, la vie des missionnaires de la charité va continuer comme ça. Et puis très vite, quand elles vont être 20, 25 missionnaires de la charité, comme Mère Teresa, elles vont devoir trouver un autre logement. Et elles vont trouver cette grande maison qui est la maison mère actuelle, qui est toujours la maison mère, où Mère Teresa va vivre le restant de sa vie. Et puis, dans cette maison mère, les effectifs des missionnaires de la charité et les œuvres de Mère Teresa vont continuer de se faire à Calcutta, et puis ensuite dans d'autres villes de l'Inde, et puis après dans le monde entier. Et un jour, et je voudrais terminer là-dessus, Mère Teresa va écrire à ses sœurs, et à ses frères missionnaires de la charité et aux pères missionnaires de la charité. C'était le 25 mars 1993. À cette date-là, 40 ans après l'événement de cette voix de Jésus qu'elle avait reçue dans le cœur et que peu connaissait, dont peu connaissait le contenu, Mère Teresa va éprouver le besoin d'écrire aux missionnaires de la charité et de reparler un peu de cet événement, de son appel dans l'appel, de ce service des missionnaires de la charité que Jésus lui a demandé. Écoutons maintenant cette lettre adressée aux missionnaires de la charité.
Mes enfants très chers, sœurs, frères et pères, cette lettre étant très personnelle, j'ai voulu l'écrire de ma propre main, mais il y a tant de choses à dire. Mais même si elle n'est pas de ma main, elle sort de mon cœur. Jésus veut que je vous dise encore, et surtout en cette sainte semaine, combien il a d'amour pour chacun d'entre vous, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Je m'inquiète de ce que certains d'entre vous n'aient pas encore vraiment rencontré Jésus, seul à seul, vous et Jésus seulement. Nous pouvons certes passer du temps à la chapelle, mais avez-vous perçu, avec les yeux de l'âme, avec quel amour il vous regarde? Avez-vous vraiment fait connaissance avec Jésus vivant, non pas à partir de livres, mais pour l'avoir hébergé dans votre cœur? Avez-vous entendu ces mots d'amour? Demandez sa grâce, il a l'ardent désir de vous la donner. Tant que vous n'écouterez pas Jésus dans le silence de votre cœur, vous ne pourrez pas l'entendre dire « J'ai soif » dans le cœur des pauvres. N'abandonnez jamais ce contact intime et quotidien avec Jésus, comme personne réelle vivante et non pas comme une pure idée. Comment pourrions-nous passer un seul jour sans écouter Jésus dire « Je t'aime » C'est impossible. Notre âme en a besoin, autant que notre corps a besoin de respirer. Sinon, la prière meurt et la méditation dégénère en simple réflexion. Jésus veut que chacun de vous l'écoute, lui qui vous parle dans le silence du cœur. Soyez attentifs à tout ce qui pourrait empêcher ce contact personnel avec Jésus vivant. Le diable essaiera de se servir des blessures de la vie, voire de vos propres fautes, pour vous persuader qu'il n'est pas possible que Jésus vous aime réellement. Attention, ceci est un danger pour nous tous. Mais le plus triste est que cela est complètement contraire à ce que Jésus voudrait et attend de vous dire. Pas seulement qu'il vous aime, mais davantage, qu'il vous désire ardemment. Vous lui manquez quand vous ne vous approchez pas de lui. Il a soif de vous. Il vous aime en permanence, même quand vous ne vous en sentez pas digne. Lorsque vous n'êtes pas accepté par les autres, ou même parfois par vous-même, il est celui qui toujours vous accepte. Mes enfants, vous n'avez pas à être différent de ce que vous êtes dans la réalité pour que Jésus vous aime. Croyez simplement que vous lui êtes précieux. Apportez toutes vos souffrances à ses pieds et ouvrez seulement votre cœur pour qu'il vous aime tel que vous êtes, et lui fera le reste. Chacun de vous sait en sa conscience que Jésus l'aime. Mais avec cette lettre, je voudrais plutôt m'adresser à votre cœur. Jésus désire remuer nos cœurs pour ne pas perdre notre premier amour, spécialement à l'avenir, quand je vous aurai quitté. C'est pourquoi je vous demande de lire cette lettre devant le Saint-Sacrement, la même où elle est écrite, afin que Jésus lui-même puisse parler à chacun de vous.
Oui, afin que Jésus puisse lui-même parler à chacun de vous. Et c'est ce qu'il fait en cet instant. Jésus est là. Jésus est présent dans notre cœur, comme il était présent dans le cœur de Mère Teresa. Et Jésus a dit à Mère Teresa ce qu'il voulait d'elle, ce qu'il attendait d'elle. Et pendant 50 années, elle s'est occupée des pauvres et elle a raconté ce jour-là dans cette lettre à ses frères et sœurs missionnaires de la charité. L'histoire de sa vocation, c'est surtout l'histoire de Jésus dans son cœur et tout ce qu'il lui a fait faire. Eh bien, Sainte Thérèse de Calcutta, toi qui aujourd'hui es dans le ciel, toi qui aujourd'hui es avec ton Seigneur, avec Jésus, nous te prions et nous te prions aussi et nous prions avec toi. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.